Bien. Alors, je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus. Et oui, bienvenue à ce nouveau message, c'est le deuxième sur ce thème des paroles aux actes. On vérifie encore si ça marche. Oui, on va voir. Hein? En tout cas, la louange a chauffé vos cœurs. Maintenant, je vais chauffer un peu vos oreilles au travers de la prononciation italienne du français. J'espère que vous allez vous habituer.
Je vais juste mettre le micro.
Il m'aime. Hein, il m'aime.
Sinon, ça fait trop de pup. Donc, c'est le côté. Puis ça sera beaucoup.
Merci. T'es gentil. Merci beaucoup. Hein? On est privilégié d'avoir des techniciens chez nous. Hein? Oui. Alors, comme je disais, je vais vous chauffer les oreilles avec l'italien dans le français. Il faut s'habituer parce que je pense que ça ne va pas changer jusqu'au retour de Jésus. Hein? Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour du chapitre 17 des Actes. Et d'emblée, je veux vous donner le thème de mon message, trois façons d'écouter la parole de Dieu. Alors, pour notre réflexion, nous allons utiliser les expériences de Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Donc, je vous propose un bref résumé de ce chapitre. On ne va pas tout lire. Pour nous permettre quand même de nous situer dans l'histoire. Ensuite, nous allons reprendre certains passages liés au point de ma prédication. Donc, à la fin du chapitre 16, nous trouvons Paul et Silas qui laissent derrière eux la ville des Philippiens et ils se dirigent vers Thessalonique, la ville la plus riche et influente de la Macédoine. Comme d'habitude, les deux missionnaires entrent dans la synagogue et y présentent par les Écritures que Jésus est le Messie. Mais voilà que la réaction très violente des Juifs est soudain au point que Paul et Silas doivent vite fuir pour chercher refuge dans une ville voisine. Malgré cela, une église voit le jour à Thessalonique, puisqu'on trouve les deux lettres de Paul aux Thessaloniciens dans notre Bible. Alors, dans la ville refuge de Bérée, nos amis entrent encore dans la synagogue pour prêcher le Christ. Et là, ils y trouvent un accueil très différent, même à l'opposé de celui de Thessalonique. Mais les problèmes ne tardent pas à arriver. Ce sont encore ceux de Thessalonique qui sont allés. Ils ont décidé de s'acharner sur l'apôtre. Encore une fois, Paul doit fuir et il est accompagné à Athènes pendant que Silas et Timothée restent à Bérée. Dans la grande ville grecque, Paul est bouleversé par les innombrables idoles qui la remplissent. Alors, il commence à discuter sur la place publique chaque jour avec les gens qu'il rencontre. Voilà qu'un groupe de philosophes païens l'invite à donner plus d'explications sur ce Jésus qu'il prêche. Mais quand l'apôtre parle de la résurrection des morts, les uns se sont moqués de lui et les autres sont partis en disant qu'il aurait écouté une autre fois. Voilà un bref aperçu de ce chapitre particulier. Dans ce chapitre, on trouve un numéro qui revient constamment. Il s'agit du numéro 3. Nous avons trois missionnaires. C'est Paul, Silas et Timothée. Nous avons trois villes. Thessalonique, Bérée et Athènes. Nous avons trois groupes de personnes. C'est les Juifs, les non-Juifs mais craignant Dieu et les païens. Alors, vous comprenez d'où arrive le titre de mon message. L'écoute est un outil fondamental de Dieu et il nous l'offre pour notre relation avec lui et avec notre prochain. En discutant sur l'importance de l'écoute, quelqu'un a dit « Dis-moi comment tu écoutes et je te dirai quelle sorte de chrétien tu es. » Bon, on a un peu rigolé sur ça, mais néanmoins, cela montre l'importance du sujet. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez comment ça fleurit les livres sur ce thème. Il y en a de chrétiens et pas chrétiens, tout le monde réfléchit sur l'écoute. Alors, l'écoute fait partie de la communication. Alors, j'ai d'abord cherché la définition de communication dans un dictionnaire. La communication est l'ensemble des phénomènes qui peuvent intervenir lorsqu'un individu transmet une information à un ou plusieurs autres individus. Nous trouvons aussi dans cela les composantes de la communication. Il y a l'émetteur, donc dans ce cas c'est moi, et le récepteur, dans ce cas c'est vous aujourd'hui. Et dans les composants de la communication, nous trouvons encore les stratégies. On va faire un peu d'études de la communication. Les stratégies de la communication sont les attitudes et comportements adoptés par les acteurs en fonction d'un but à atteindre. Alors, mon but aujourd'hui est de vous communiquer le résultat de mes réflexions. Quel est votre but ce matin, en venant ce matin à l'escale? Quelle est votre attitude vis-à-vis du prédicateur du jour et de son message? Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur notre façon d'écouter et de recevoir la parole de Dieu. Alors, il a été dit, bientôt il y aura le service Pâques. Nous voulons espérer qu'un grand nombre parmi nous soit engagé dans un ou l'autre des projets. Nous devons être prêts à rencontrer des gens qui ont, eux aussi, leur manière d'écouter. Et nous, quelle sorte d'écoute allons avoir envers eux? Un cher ami que j'apprécie beaucoup, il a dit un jour dans un séminaire, s'il n'y a pas un bon niveau de confiance vers la personne qui transmet le message, alors même la meilleure prédication, allez-vous la recevoir? C'est peu probable, dit mon ami. Et pourquoi? Parce que vous ne donnez pas autorité à l'enseignement. La dimension de confiance que vous donnez à la personne va déterminer la mesure d'autorité que vous donnez à son enseignement. Si vous avez confiance, vous allez autoriser cette personne à parler dans votre vie. Si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas l'autoriser. Ce thème est très important car notre façon d'écouter va déterminer aussi notre façon de réagir vis-à-vis de cette parole de vie qui veut nous interpeller, qui veut nous enseigner, qui veut nous édifier et aussi corriger. Mais ce thème est important aussi dans nos relations les uns avec les autres, comment nous nous écoutons, et dans nos relations avec nos concitoyens, comment nous les écoutons. Alors, quelle dimension de confiance donnons et recevons-nous? Cela dépend de notre manière d'écouter et d'être écouté. Dans le chapitre 17 des Actes, on y trouve trois groupes de personnes qui ont trois façons différentes d'écouter. Cela est vrai aujourd'hui dans l'Église, mais il est aussi vrai dans les rues de notre ville, comme il était au temps de Paul. Alors j'ai sorti les trois manières. Il y a ceux qui écoutent avec orgueil, ceux qui écoutent avec indifférence et finalement ceux qui écoutent avec humilité. Thessalonique, Athènes et Bérée, trois villes, trois groupes de personnes et trois impacts différents pour la bonne nouvelle. Nous démarrons tout de suite avec le premier point, Thessalonique. Écoutez la parole avec orgueil. Vous avez le texte. Alors, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume, comme nous avons dit. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Ensuite, au verset 5, il est dit, mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation de la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et y cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Alors, notre premier groupe de personnes sont les Juifs de Thessalonique. Il y avait d'autres groupes, mais nous prenons ces Juifs-là. Et nous savons que tout au long de la Bible, on trouve l'attitude d'orgueil des Juifs vis-à-vis des choses de Dieu. Nous savons que Jésus a été très dur vis-à-vis des Juifs qui avaient une place élevée dans la société et dans la religion, mais qui étaient seulement des hypocrites, comme il disait. Nous trouvons un autre clair exemple de cet orgueil tout au début de l'histoire de l'Église. Cela, c'est au chapitre 15 des Actes. Voilà que il est dit au verset 1, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Vous devez être circoncis selon le rite de Moïse, ou vous ne pouvez pas être sauvés. » Et au verset 5, « Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » Donc, ces Juifs-là voulaient imposer leur loi aux chrétiens issus du paganisme. Ils étaient des conservateurs endurcis. Ils étaient des Juifs qui avaient cru en Jésus. Mais ils mettaient leur tradition devant leur Seigneur, devant son enseignement. Jésus avait enseigné que le vin nouveau, il faut le mettre dans des jarres nouvelles. Cela signifie que la bonne nouvelle ne peut pas être enfermée dans un système religieux ou dans une culture donnée. La bonne nouvelle est une puissante parole de liberté face à tous les systèmes contraignants du monde, que ce soit politique ou religieux. Mais les Juifs de Thessalonique refusaient le nouveau de peur de perdre leur autorité et leur place élevée. Pendant trois sabbats, Paul a discuté avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ était Jésus, était le Messie. Mais écouter avec orgueil empêche de voir l'évidence. D'ailleurs, même les miracles de Jésus ne les avaient pas convaincus. Sommes-nous immunisés de ce danger? Malheureusement, la réponse est négative. Ce qui se passe, ou ce qui s'est passé au temps de notre Seigneur, il se passe encore dans nos églises. Combien de problèmes, de divisions ont à la base l'envie, l'orgueil, la peur de perdre le pouvoir, la peur du nouveau? Aussi la difficulté qui est la nôtre de recevoir la correction. Notre église, l'ESCAL, soutient le travail parmi les enfants de la rue au Tchad. Juste après notre retour du Tchad, en juillet 2017, il y a eu la votation pour élire les nouveaux responsables nationaux de l'église évangélique du Tchad. Mais depuis là, des luttes de pouvoir ont fait que cette église, qui est la plus grande dénomination du Tchad, elle est maintenant déchirée, sans beaucoup d'espoir de réconciliation. Et il faut vraiment prier pour cela. Donc, je ne vous parle pas d'événements du siècle passé, au temps de concile de Jérusalem, je vous parle des choses qui se déroulent maintenant, dans notre époque. L'exemple négatif des Juifs de Thessalonique nous montre qu'écouter la parole avec orgueil signifie mettre une barrière, consciente ou pas, entre nous et la personne qui nous parle de la part de Dieu. Notre manière d'écouter peut aussi mettre une barrière entre nous et l'inconnu que nous rencontrons dans la rue et à qui nous voudrions parler de Jésus. L'écoutons-nous vraiment ou voulons seulement être écoutés? Voulons-nous écouter ses raisons ou seulement imposer les nôtres? L'orgueil nous rend stériles et notre cœur s'endurcit au point qu'il n'y a plus de place pour la véritable écoute. Il n'y a plus de place pour les choses nouvelles. L'orgueil nous fait croire déjà tout savoir. Alors, laissons les écouteurs orgueilleux pour avancer dans notre réflexion en lisant encore le chapitre 17, les versets 18 à 20. On saute à Athènes. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens, il ne faut pas me demander, allez vers Luc, se mirent à parler. Non, je rigole. Se mirent à parler avec lui et les gens disaient : que veut dire ce discoureur ? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient : il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Areopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Voilà, le deuxième point, c'est Athènes. Écoutez la parole avec indifférence. Dans le discours de Paul à Athènes, nous découvrons la capacité de l'apôtre de s'adapter à son auditoire. On a fait beaucoup de prédications sur ça. Encore aujourd'hui, nous devons aussi faire preuve d'adaptation culturelle pour attendre nos concitoyens. En particulier, abandonnons notre langage un peu cananéen quand nous parlons avec eux. Parlons la langue du peuple. Je pense que vous connaissez mieux le vaudois que moi. Alors, malgré la capacité de l'apôtre de s'adapter, nous voyons que le résultat final à Athènes est quand même semblable à celui de Thessalonique parmi les Juifs. Encore une fois, nous découvrons que là aussi, c'est la manière d'écouter de l'auditoire qui prime sur la capacité oratoire de l'apôtre. En lisant ces versets, on pourrait être tenté de croire que ces hommes étaient ouverts à l'écoute de la bonne nouvelle. Ils s'intéressent à cet étranger qui parle des choses nouvelles. Mais attention, ne nous laissons pas tromper par les apparences. Athènes, la capitale de la Grèce, était le centre de la science et de la philosophie et des arts, le berceau de ce qu'aujourd'hui on appelle la démocratie. Il est vrai que toute la Grèce était sous la domination militaire des Romains. Mais on peut aussi dire que tout l'Empire romain était sous la domination de la culture grecque, la domination. Les idées et les coutumes de l'époque étaient imprégnées de la culture du pays de Socrate et de Platon. Imaginez-vous que la langue grecque était la seule qui était parlée et comprise dans tout l'Empire. D'ailleurs, le Nouveau Testament a été écrit dans cette langue. Alors, Athènes était la ville de l'abondance, soit intellectuel que matériel. Or, nous savons que quand notre ventre est plein, on ne se préoccupe pas pour le prochain repas. Quand tout va bien et l'avenir est prometteur, nous ne vivons rien comme étant nécessaire et rien ne nous intéresse vraiment. Il me semble que cette ville soit une bonne image de notre société occidentale. Nous trouvons le dernier gadget, la dernière tendance, le dernier film. Toutes ces choses prennent notre totale attention. Jusqu'à la nouvelle saison, avec le nouveau gadget, la nouvelle mode, le nouveau film. Eh oui, en tout cas, c'était la situation des habitants d'Athènes, une ville grasse et opulente dans laquelle rien ne manque. Au verset 21, il est dit « Or tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. » On peut bien dire que les Athéniens étaient des personnes très intelligentes. Mais de quelle sorte d'intelligence parlons-nous? Alors, j'ai trouvé dans le Talmud, qui est le livre de sagesse des rabbins juifs, on trouve l'explication de quatre sortes d'intelligence. Il y en a trois qui sont négatives et une qui est positive. Alors, la première négative est appelée l'intelligence éponge. Alors, voilà, j'ai amené avec moi une éponge. J'ai cherché la plus grande que je pouvais trouver pour que vous puissiez la voir. Alors, quelles sont les caractéristiques? Elle est légère, flexible. On peut se laver, laver la voiture. Hein? Au Tchad, en Afrique, les enfants peuvent même l'utiliser pour jouer à ballon. Hein? J'ai vu beaucoup de ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe si nous mettons cette éponge dans un conteneur avec beaucoup de liquides différents, hein, que ça peut être l'eau, l'essence, la bière, le vin, on peut mélanger tout et on met l'éponge dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, un petit vidéo de quelques secondes. Là, il y a une éponge. Ce n'est pas important si vous n'entendez pas. Vous voyez, différents liquides qui entrent dans l'éponge, n'est-ce pas? Et il n'y a plus rien qui reste. Alors, l'éponge va tout absorber. Il ne va pas faire de différence entre un liquide et l'autre, n'est-ce pas? Alors, c'était exactement la situation des habitants d'Athènes. Ils recevaient toutes les nouveautés et les intégraient dans leurs croyances. J'ai encore ma vieille Bible en italien et à côté du verset 21 qu'on vient de lire, il y a une petite note que j'ai écrite il y a longtemps et j'ai écrit simplement « Moi, j'étais comme ça. Hein? » Moi, j'étais comme ces Athéniens qui n'avaient rien de mieux à faire que papoter et écouter les nouveautés. Avant de connaître l'amour de Jésus-Christ, je cherchais constamment des nouveautés à ajouter à mes connaissances. Mais c'est ainsi que beaucoup de choses mauvaises sont entrées dans ma vie. Oui, car j'absorbais tout comme une éponge. Aucune évaluation, aucun choix, aucune prise de position. Les recherches archéologiques ont mis à la lumière l'autel sans aucune statue dont nous parle Paul au verset 23. Voilà. Et il est dit, il est l'inscription, il dit, c'est sous ce vocable d'Agnostostéos, le Dieu inconnu, qu'une divinité non identifiée était adorée par les Grecs anciens. Alors, Paul saisit l'occasion pour présenter le vrai Dieu unique, qu'il a voulu, qui cherche le Seigneur et qui s'efforce pour le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, comme il est écrit au verset 27. Oui, il est bien vrai, Dieu n'est pas tellement loin de nous et il n'était pas tellement loin de ces Grecs. Mais nous pouvons être tellement loin de lui. J'ai trouvé une chose très intéressante. Ici, nous sommes près du pôle Nord, le détroit de Bering. Là, il se trouve deux îles. La grande Diomède appartient à la Russie et la petite Diomède aux USA. Alors, c'est à ce niveau que nous trouvons le changement de date. Quand il est lundi côté américain, il est déjà mardi côté russe. Alors, ces deux îles ne sont distantes que 4 kilomètres. Elles sont tellement proches, mais tellement loin, un jour entier. Alors, notre manière d'écouter détermine la réelle distance qu'il y a entre nous et Dieu, entre nous et notre prochain. L'écoute éponge ne fait aucune distinction entre la vérité de Dieu et les soi-disant vérités qui nous balancent chaque jour la télévision, la radio, les journaux. Et peut-être aujourd'hui, il faudrait plutôt dire comment nous sommes influencés par ce que nous écoutons sur Internet, WhatsApp, YouTube, Instagram, etc. Mais alors, comment nous pouvons faire, hein? La troisième localité visitée par nos amis missionnaires nous donnera ce que pour moi est la réponse. Je parle de Béré. Écoutez la parole avec humilité. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, après les nombreuses difficultés vécues par Paul et ses amis, ça fait du bien d'entendre ce verset, hein. Ils ont été bien reçus, bien accueillis. Alors, je reviens encore une fois au Talmud, le livre de sagesse des rabbins juifs, pour parler de la seule intelligence positive qui est relatée, celle qui est appelée l'intelligence filtre. Il faut dire que le filtre est un objet très intelligent. On en trouve de toutes sortes et chaque filtre a sa spécialisation. J'ai collecté quelques images. Il y a les filtres à thé, les filtres à café, qui font sortir l'arôme, mais qu'on ne trouve pas dans la tasse les bouts d'herbe qui nous dérangent. Il y a les filtres à huile, les filtres à essence, qui s'occupent de notre engin, de notre véhicule. Ce sont des filtres bien connus. Et si on revient encore au Tchad, mon pays du cœur, tous les missionnaires ont un filtre pour l'eau. Donc il y a le modèle pour les missionnaires européens et le modèle pour les missionnaires américains. D'accord? Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, mais ces filtres-là bloquent tous les éléments nocifs et on peut boire de l'eau potable. Alors encore, je vous demande de prier pour que ce filtre soit dans toutes les maisons du Tchad pour éviter beaucoup de maladies très courantes là-bas. Et le Tchad, c'est encore un des pays où il y a le moins d'accès à l'eau potable. Alors, il y a encore des filtres impressionnants qui ont la capacité de bloquer les gaz toxiques et de laisser passer l'air pur. Alors là, les militaires et les pompiers y connaissent très bien leur utilité. Donc, si on parle d'une façon figurée, on peut dire que le filtre a la tâche d'évaluer les éléments qui arrivent et de laisser passer seulement ceux qui sont bons. Seulement ceux qui sont bons ont le droit de passer et tous les autres sont bloqués. Alors on peut se demander quel est le filtre utilisé par les habitants de Béret. On reprend le verset 11. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc les gens de Béret avaient l'humilité de reconnaître leur besoin du filtre de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont pu recevoir les paroles de Paul sans être bloqués par leurs traditions, par leurs préjugés, par leurs connaissances. Ils ont écouté et ils ont cherché une confirmation dans les Écritures. Paul avait reçu le ministère d'apôtre et d'enseignant directement de Dieu. Mais cela n'efface pas la responsabilité des personnes à s'interroger et à évaluer. Les habitants de Béret n'ont pas mis au centre le prédicateur et même pas leur connaissance ou leur culture. Ils ont mis au centre les Saintes Écritures. Nous pouvons dire que la prédication de Paul a pris de la valeur et a donné des fruits car elle est passée par le filtre de Dieu et elle est restée intacte. Alors soyons comme les gens de Béret, qui étaient prêts encore à apprendre des choses sans préjugés, mais ils vérifiaient tout à la lumière des Écritures. Quelqu'un pourrait demander, oui, d'accord, comment nous allons nous prendre ici, nos concitoyens, ils ne sont pas de Béret, ils sont d'Yverdon-les-Bains. Bon, il n'y a pas 10 000 solutions. Demandons le discernement de Dieu. Qu'il nous montre ceux qui sont prêts à écouter avec humilité. Ceux qui sont prêts à apprendre des choses nouvelles, les choses nouvelles que nous voulons leur donner. Mais surtout, prions afin que nous-mêmes, nous sachions écouter notre prochain et lui donner la valeur qu'il mérite, car il est créé à l'image de Dieu. Nous avons toujours quelque chose à apprendre, même de la part des païens, des athées ou des membres d'une autre religion, si seulement nous écoutons de la bonne manière. Alors, frères et sœurs, nous arrivons doucement à la conclusion. Nous avons laissé la parole aux actes et nous avons trouvé Paul et ses deux compagnons qui ont prêché dans trois villes à trois groupes de personnes. À Thessalonique, les Juifs ont écouté avec orgueil, bien attachés à leur tradition et à leur culture. Il est dit au verset 4a, très peu parmi eux ont cru et ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à Athènes, les Grecs ont écouté d'une manière indifférente, car ils ne pouvaient pas saisir l'unicité du message, tellement étaient encombrés par toutes leurs idoles. Et là aussi, le verset 34a, il dit, seulement quelques Grecs ont reçu la parole de vie. Et finalement, à Béret, toutes les personnes qui étaient là ont écouté avec humilité. Ils avaient des sentiments plus nobles et ont examiné chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et le verset 12 nous dit, beaucoup parmi les Juifs un grand nombre de femmes et beaucoup d'hommes non juifs ont cru et sont entrés dans l'Église universelle de Christ. La différence entre ces trois villes et ces trois groupes de personnes a été leur façon d'écouter la parole de Dieu. Alors il est vrai, nous ne pouvons pas imposer une manière d'écouter. Mais nous pouvons travailler sur notre manière d'écouter. Comme nous dit Jacques, que chacun soit prompt à écouter et lent à parler. Écoutons nos concitoyens. Si nous voulons entendre la voix de Dieu, eh bien, il faut écouter. Si nous voulons impacter nos contemporains, eh bien, on doit aussi les écouter. Ma prière est que nous puissions chercher et trouver ceux qui sont prêts à écouter la bonne nouvelle sans préjugés. Je prie que nous puissions trouver ceux qui sont prêts même à écouter la voix du bon berger et non pas la nôtre. Comme dit Jésus, c'est lui le bon berger. Il connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Et le verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de l'escale. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, chers frères et sœurs, Pâques s'approche. Allons chercher ces brebis pour la gloire de notre Dieu. Amen.